Un mort et un blessé grave chez des émeutiers à Thio. La gendarmerie a été visée par des tirs lors d'une opération de libération des axes routiers et a dû riposter. Les catholiques fêtent le 15 août l'Assomption de la Vierge Marie. Les fidèles se retrouvent dans leur paroisse. Le pèlerinage à la Conception a été annulé. Le Salon des artisans inauguré ce matin à Nouville. De nombreuses personnalités du monde institutionnel et économique sont venues soutenir un artisanat très fragilisé par les émeutes. Une collision rarissime entre deux avions de chasse Rafale survenus en Meurthe-et-Moselle a fait deux morts, un élève pilote et son instructeur. Dans le monde, le défenseur des baleines Paul Watson va être présenté dans les heures qui viennent devant la justice danoise. Le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, 73 ans, est menacé d'extradition vers le Japon. Et puis le sport, le Real Madrid remporte la Supercoupe d'Europe avec une victoire 2-0 sur l'Atalanta Bergame et le premier but de Kylian Mbappé avec son nouveau club. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La situation a dégénéré ce matin à Thio. Un émeutier a été tué, un autre grièvement blessé. Les faits se sont produits alors que la gendarmerie est intervenue pour une opération de libération des axes routiers. Jean-François Baudin.
Il s'agissait d'enlever quelques barrages résiduels sur les routes lorsque les forces de l'ordre ont été prises à partie au niveau du pont qui permet d'accéder au village. On parle d'une agression d'une extrême violence. Les émeutiers ont en effet tiré en visant les gendarmes et en lançant des cocktails Molotov. Les forces de l'ordre ont donc riposté. Ce drame a eu lieu dans la matinée et les affrontements se sont ensuite poursuivis toute la journée. C'est l'entrée de Thio qui est aujourd'hui en difficulté alors que le village, lui, serait sécurisé par les forces de l'ordre. Un émeutier a donc été tué. Touché à la tête, il serait mort pendant son transfert vers l'hôpital et un autre grièvement blessé. Ces émeutes ont donc fait 11 victimes depuis le 13 mai, parmi lesquelles figurent deux gendarmes.
Et d'autre part, pour le troisième jour consécutif, des caillassages ont eu lieu à Poya sur la RT1. Les gendarmes ont dû une nouvelle fois intervenir pour ramener le calme et permettre la libre circulation. Rappelons que l'église de Thiers à Point-d'Imier a été partiellement incendiée hier. 7 départs de feu ont été constatés. Dans un communiqué, le président de la province Nord, Paul Néoutine, condamne avec vigueur au nom de la collectivité provinciale des actes qui portent atteinte à la mémoire commune du pays que représentent les lieux de culte, les monuments historiques et biens collectifs reçus en héritage. Ces actes n'aident en rien à l'apaisement dont a besoin le pays et contribuent à diviser davantage les citoyens dans une période où nous devons faire preuve de solidarité, d'entraide et mobiliser nos énergies pour apporter des réponses aux conséquences sociales et économiques de la crise en Nouvelle-Calédonie, écrit Paul Néoutine. C'est le président de la province des îles, Jacques Lallier, qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur la situation de la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, sur les conséquences dans sa province et sur la manière dont il envisage l'avenir. Jacques Lallier, invité de Transparence, est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. L'État est là, il continuera d'accompagner la Nouvelle-Calédonie. C'est le message relayé auprès des acteurs économiques et politiques par Claire Durieux, conseillère du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, qui vient de passer une semaine sur le territoire. Depuis le début de la crise, elle a été chargée à Bercy du dossier calédonien et de la mise en place des dispositifs de soutien à l'économie calédonienne. Avant son départ, elle nous a accordé un entretien pour faire le point sur ses rencontres sur le terrain et l'évolution des dispositifs de soutien de l'État. Un entretien qui sera diffusé demain matin à 7h30 sur notre antenne. La fête de l'Assomption, largement célébrée en Nouvelle-Calédonie malgré le contexte insurrectionnel, le traditionnel pèlerinage de la Conception n'a pas pu être organisé en raison de la situation particulière, mais les fidèles se sont retrouvés très nombreux dans leur paroisse pour célébrer la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie. Jean-François.
Le 15 août est une fête catholique qui célèbre l'Assomption de la Vierge Marie et c'est aussi la fête patronale du diocèse de Nouméa. Elle est donc très largement célébrée sur le territoire où elle est marquée habituellement, vous le disiez, par le traditionnel pèlerinage de la Conception qui réunit des milliers de fidèles. À cause de la situation insurrectionnelle que connaît la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, il était impossible de rassembler de grandes foules et le diocèse a renoncé à organiser ce pèlerinage à la Conception. Mais les fidèles étaient présents en nombre à la cathédrale, comme l'a souligné à la sortie de la messe l'archevêque de Nouméa, Mgr Calvé.
Les conditions ne sont pas celles que l'on souhaite habituellement, mais néanmoins les fidèles étaient là dans chacune des paroisses, particulièrement à la cathédrale. C'est quelque chose qui me paraît normal, parce que si nous avions eu la possibilité de nous rassembler à la Conception, comme d'habitude, on aurait été plusieurs milliers. Donc là, c'était un petit peu moins, mais la cathédrale débordait. Quand une église déborde, c'est une bonne chose. Et donc tous ceux qui étaient là, c'est qu'ils avaient envie de célébrer la fête de l'Assomption, la fête de la Sainte Vierge, la fête patronale du diocèse. Ce que j'ai rappelé, c'est en fait tout ce qui a été enseigné à propos du rôle de Marie comme type, comme modèle de l'Église, et qu'un vrai culte marial n'enlève rien au culte du Sauveur, mais au contraire, le renforce.
Quand une église déborde, c'est une bonne chose, déclare l'archevêque de Nouméa, alors que plusieurs églises calédoniennes ont été la cible des émeutiers, des violences que les fidèles avaient forcément en tête.
C'est le jour de la fête de la Mère du Christ. C'est encore plus particulier parce que voilà, il faut qu'on prie pour le pays, qu'on prie pour tout le monde, tous les gens qui ont perdu leur travail, et voilà, pour notre pays, pour qu'on puisse avancer. Voilà.
On ne peut pas faire le pèlerinage à la Conception, donc c'est un peu particulier, chacun se regroupe dans sa paroisse.
C'est peut-être une situation particulière due à la situation du pays, et ça nous fait prier beaucoup plus.
On ne pouvait pas faire le pèlerinage à la Conception, mais une messe y était célébrée ce matin, et là aussi les fidèles étaient extrêmement nombreux. La petite église de la Conception ne pouvait pas les recevoir tous, et beaucoup ont dû rester sur le parvis. Le père Steve, qui a célébré la messe, était ému de cette affluence.
Je pense qu'on doit revenir à l'essentiel, malgré même tout ce qui se passe en ce moment. Aujourd'hui encore, il y a la preuve que les gens ne perdent pas la foi quand même. Même s'il n'y a pas de pèlerinage, mais notre vie est déjà pèlerinage tout le long de notre vie, en fait, avec ses hauts et ses bas. Le plus important, c'est de se rassembler ensemble dans une même foi, même malgré ce que nous vivons actuellement, nous restons fidèles à ce que nous devons faire, c'est tout. Ben oui, j'étais très content de se retrouver, parce que avec tout ça, ces événements, ils n'ont pas eu l'occasion, ils voulaient venir à l'église. Mais je crois que c'est partir au-delà de leur peur, hein. La foi les a conduits ici, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Moi aussi, j'avais pas espéré qu'il y aurait tant de monde ici. C'est ça le plus important, en fait. Maintenir notre foi, malgré tout.
Les événements que vit la Calédonie étaient là encore présents dans l'esprit de tous les fidèles.
Ça a été une très belle messe, bien animée. En fait, maman Marie, hein. Donc, je pense que la ferveur, elle était grande aujourd'hui. Le plus important, c'est que les gens puissent se réunir, que ce soit par le pèlerinage ou par la messe. Pour moi, c'est pareil.
Ben, moi, je ne m'attendais pas à cet effectif-là, parce que, comme l'évêque avait dit que c'était chacun dans sa paroisse, mais les gens n'ont pas eu peur de venir ici. Ils sont venus pour assister à la messe de l'Assomption ici, à Conception, comme chaque année. Ben, déjà, le prêtre, il misait beaucoup sur l'espérance dans son homélie. Et puis, voilà, moi, ça m'encourage encore à continuer et à revenir les années d'après.
Ça nous manquait beaucoup, ce rassemblement, puisque ça fait presque 2 mois que je ne suis pas revenue à ma paroisse. Et ça fait du bien de se retrouver tous ensemble. Là, on ne se connaît pas, mais ça fait du bien. Et toutes ces ethnies confondues, c'est magnifique. On est tous ensemble et c'est très bon de partager.
Et après la messe, une collation de l'amitié était proposée aux paroissiens. Et ceux qui n'ont pas fait le déplacement à la Conception ont célébré la fête de l'Assomption dans leur paroisse. C'est le cas à l'église Saint-Jean-Baptiste de la Vallée des Colons à Nouméa, où une journée de prière et de recueillement était organisée sur le thème de la paix. Elle a débuté par la célébration de la messe par le Père Ngo, suivie par l'adoration du Saint-Sacrement, un taux d'adoration animé par des groupes de jeunes.
D'habitude, on se retrouve tous à la Conception, on fait tous un pèlerinage de notre côté pour aller vers la maison de Marie. Et là, je voulais quand même être présente pour voir comment ça allait se dérouler, parce que c'est une fête quand même très importante pour nous. Nous, les jeunes, on nous a proposé de venir et de voir qu'il y a quand même des personnes qui viennent et qui prient et qui n'oublient pas la prière. C'est touchant et c'est que magnifique, en fait.
Ça m'a fait du bien, parce que le matin, on a eu la messe pour fêter l'Assomption. Ensuite, on a animé l'adoration du Saint-Sacrement. Après, on a eu le rosaire, le chapelet de la Divine Miséricorde. On a terminé avec l'ensemble du renouveau charismatique. On a prié pour la paix dans le monde, surtout ici en Nouvelle-Calédonie, avec tout ce qui s'est passé depuis le 13 mai.
Nous, les jeunes, on nous a demandé d'animer toute la journée l'adoration et le rosaire. Et si nous sommes venus, c'était pour que l'on montre qu'on est en union de prière avec les personnes qui sont présentes et celles qui n'ont pas pu venir. Même si on n'était pas à la Conception, ce n'est pas grave, on va dire, parce que où que l'on soit, où que l'on prie, Jésus, il s'en fiche que tu sois là pour faire ça. Tout ce qui lui intéresse, c'est que tu fêtes cette fête patronale et que tu montres que tu as la foi.
Et cet après-midi, les fidèles se sont retrouvés pour réciter le chapelet et à 15h, l'heure habituelle de la messe lors du pèlerinage de la Conception, toutes les paroisses de Nouvelle-Calédonie étaient en union de prière pour la récitation du rosaire. Une journée dans un climat très apaisé selon le diacre Nissier Finitoga.
C'est une journée apaisée. Les gens ont véritablement besoin de silence, de cœur à cœur avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un temps pour se tourner vers le ciel, mais c'est aussi pour se tourner vers les autres. Ceux qui n'ont pas pu venir, à travers une prière, prier pour notre jeunesse, c'est véritablement demander la grâce de la Vierge Marie pour le don de la paix, le don de la fraternité, mais aussi prier pour qu'on puisse vivre la charité entre nous, entre frères et sœurs, dans notre beau pays de la Nouvelle-Calédonie.
Une fête de l'Assomption célébrée sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie dans les différentes paroisses.
On revient maintenant sur les événements survenus aujourd'hui à Thio avec ce communiqué du procureur de la République Yves Dupas qui vient nous parvenir, Jean-François.
Oui, dans ce communiqué, le procureur de la République indique que 3 enquêtes ont été ouvertes à la suite de ce qui s'est passé à Thio. Le premier événement a eu lieu tôt ce matin vers 6h. Les gendarmes mobiles ont constaté qu'un groupe d'une vingtaine d'individus entravait la route provinciale 4 au niveau de la tribu de Saint-Pierre. Ils avaient notamment placé un engin de chantier sur la voie publique. Lors d'une action visant à libérer cette entrave, explique le procureur de la République, les gendarmes ont rencontré une forte adversité et subit des projections d'objets, notamment de pierres. Un gendarme a été blessé au visage par un projectile et pour ces faits, un homme a été interpellé. Il a été placé en garde à vue pour cette première affaire diligentée par la brigade de la foi du chef de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Les investigations sont toujours en cours. Peu de temps après, et c'est là que la deuxième enquête intervient, l'escadron de gendarmes mobiles a été pris violemment à partie, dans une manœuvre de dégagement de l'axe en subissant des jets de pierre et de cocktails Molotov, mais aussi des tirs d'armes à feu. Les gendarmes ont donc riposté dans un premier temps avec des grenades lacrymogènes et compte tenu de l'intensité des coups de feu les ciblant, ils ont fait usage de leurs armes de service, indique le procureur de la République. À 6h30, un homme parmi les assaillants a été blessé au niveau du cou. Son pronostic vital est toujours engagé à 7h. Et à 6h40, certains assaillants ont continué à tirer en direction des gendarmes. Et dans un tir de riposte, un homme a été atteint au niveau de la tête. Il est décédé lors de son transport vers le centre hospitalier. S'agissant de ces faits de violence sur les gendarmes mobiles avec usage d'armes, l'enquête est confiée à la section de recherche de Nouméa. Et puis le procureur de la République indique qu'en parallèle, le parquet a saisi l'inspection générale de la gendarmerie nationale de l'enquête sur les conditions de l'usage des armes par les gendarmes mobiles, sur les qualifications de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça concerne évidemment le tir sur la victime qui est décédée dans son transfert à l'hôpital. Et l'autre enquête vise des violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique. L'objet de cette enquête conduit avec toute l'objectivité et l'impartialité nécessaires par le Bureau des enquêtes judiciaires de l'Inspection générale de la Gendarmerie nationale et de mener des investigations approfondies sur les circonstances de l'usage des armes par les gendarmes et de permettre au parquet notamment d'apprécier si l'usage de ces armes constitue ou non dans la situation examinée une riposte légitime et proportionnée à l'attaque. Enfin, le procureur de la République indique que le parquet a ordonné aussi un examen scanographique ainsi qu'une autopsie du corps de la victime. Il s'agit d'un homme de 43 ans qui demeure à Thio. Je tiens à souligner que l'action des gendarmes visait depuis ce matin à libérer des voies de circulation illégalement entravées dans l'objectif impératif de préserver les libertés publiques pour l'ensemble des Calédoniens, dont la première est celle de circuler librement, conclut Yves Dupas. À ce stade de l'enquête, dit-il, ces enquêtes relèvent une nouvelle fois l'hostilité extrême de certains individus lourdement armés, visant à affronter de manière délibérée les gendarmes dans l'exercice de leur mission légitime et à porter atteinte à leur intégrité physique. Fin de citation.
Merci Jean-François. Il est 17h59, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité avec d'abord le salon des artisans inauguré ce matin en présence de nombreux représentants du monde économique et institutionnel. A tout de suite.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Info soir, Isabelle Pelletier.
Le Salon des artisans calédoniens inauguré ce matin à la Maison des artisans, le monde institutionnel et économique a largement répondu présent pour venir soutenir ce pan de l'économie lourdement pénalisé par les émeutes, Charlotte Coulson.
De la poterie, des bijoux, des savons, de la déco du miel, mais aussi, entre autres, des plantes et même des piscines et des chauffe-eau solaires. Plus de 80 stands sont rassemblés à la Maison des artisans pour ce long week-end, depuis ce matin et jusqu'à dimanche. L'opportunité pour les visiteurs de trouver de l'artisanat d'art, mais aussi de quoi s'adonner au jardinage, voire même de lancer des travaux chez soi. Et bien sûr, pour les artisans, de disposer de 4 jours pour réaliser des ventes après plusieurs mois d'émeutes. Sur place, Elisabeth Rivière, présidente de la CMA, était présente.
Et aucun artisan n'a été épargné par cette crise. L'idée, c'est vraiment de faire ce salon pour regrouper déjà un maximum d'artisans dans les différents secteurs, hein, secteur de l'artisanat d'art, secteur du bâtiment, secteur de l'alimentaire, secteur des services, pour que la clientèle trouve sur place un éventail de produits différents pour pouvoir réaménager son jardin, des travaux de maison dans divers domaines. Et permettre surtout à nos artisans eh bien, de pouvoir essayer de faire un maximum de ventes dans cette période difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce contexte particulièrement difficile, il est très important d'avoir ce type de manifestation.
Le monde politique et économique est venu nombreux à cette inauguration pour apporter son soutien aux artisans en cette période compliquée. Le haut-commissaire Louis Lefranc a lui aussi tenu à être présent.
C'est un salon qui regroupe une partie des forces vives dans un territoire. Ici, en Nouvelle-Calédonie, ça a une signification et une portée particulière. C'est un salon qui se tient 3 mois après des émeutes qui ont frappé de plein fouet l'économie calédonienne. Donc ce salon, pour moi, il représente surtout la capacité de réagir des artisans qui ne baissent pas les bras. C'est leur capacité à faire face aux événements qui les ont durement touchés. Certains ont eu leurs entreprises, pour ceux qui en ont détruites, incendiées, pillées. Et donc, ils ne baissent pas les bras, ils sont confiants dans l'avenir, ils réagissent et ils disent à toutes celles et à ceux qui veulent bien se rendre aujourd'hui dans leur salon à quel point leur présence est importante pour les soutenir, pour que l'économie calédonienne revive et puisse connaître à nouveau d'aussi belles journées que celles qui existaient ici avant les émeutes.
Des artisans qui ont été pénalisés directement dans leurs activités, mais aussi dans leurs ventes, et sans oublier un gros coup au moral. On écoute Philippe, des ruchers de Bernardine à Moindou, Mélissa pour les savons de Baebao, et Vaéa, des bijoux de Vaéa.
Pendant 2 mois, je n'ai pas pu me rendre sur mes ruchers, par les routes bloquées. Quoi. Donc le risque au niveau des abeilles, qui sont quand même du vivant et qu'il faut surveiller régulièrement, et puis du retard aussi dans la préparation des ruches et des futures récoltes. Et puis après, la réduction des ventes le chiffre d'affaires qui a été complètement impacté au mois de mai et juin. Quoi. Voilà.
Mon activité, je peux dire que je l'adapte complètement. C'est-à-dire, j'ai rebondi comme j'ai pu en faisant des différents marchés que je ne faisais pas d'habitude, comme le marché de Rivière-Salée par exemple. Et là aujourd'hui, le marché des artisans.
Donc, c'est sûr que les 3 premières semaines du mois de mai, même tout le mois de mai, forcément, c'était le plus gros mois pour nous en tant qu'artisans. Et bon, ça a été raté l'histoire. Hein. Après, on a repris début juin parce qu'à un moment, il fallait sortir de ce marasme et se donner un petit coup de pied aux fesses pour se dire « Ok, on redémarre ». Et donc, on s'est motivé avec certains artisans pour reprendre et refaire des marchés. Beaucoup de clientèle est partie, on le sent dans notre chiffre d'affaires, mais on est toujours là.
Les visiteurs étaient eux aussi au rendez-vous en nombre, heureux de retrouver autant de stands d'artisanat, mais aussi un petit goût de normalité, comme une bulle d'oxygène en ces temps troubles.
Christopher Gigès, Yoann Le Courrieux et Jérémy Catidjo-Monnier pour le gouvernement, Léa Tripodi et Philippe Blaise pour la province sud, ou encore le président de la CCI, David Guyenne, était notamment présent pour cette inauguration. Le Salon des artisans est ouvert jusqu'à samedi de 8h30 à 16h et dimanche de 8h30 à midi. Et c'est donc à la Maison des artisans à Nouville. Les élèves du Mont d'Or Sud vont bénéficier d'un accompagnement pédagogique renforcé, un dispositif qui vise à lutter contre l'isolement et le décrochage scolaire le temps qu'un semblant de retour à la normale dans la commune soit possible, Léo Fichou.
Depuis 3 mois maintenant, les élèves du Mont d'Or Sud ne peuvent plus se rendre dans leurs établissements en raison des blocages de la RP1. Une solution temporaire est donc mise en place par le gouvernement, le vice-rectorat et la ville du Mont d'Or. Le premier objectif visé est de faciliter l'alternance entre un enseignant enseignement en présentiel et un enseignement à distance. Dès lundi, les élèves du Mont d'Or Sud pourront bénéficier d'enseignements délocalisés au Vallon d'Or, explique Isabelle Champmoreau, la vice-présidente du gouvernement et notamment en charge de l'enseignement.
Bien sûr, nos établissements ont fait de la continuité pédagogique, soit sous format numérique, soit sous format papier. Là, on va vraiment officialiser, notamment la salle des communautés, que la commune du Mont-d'Or nous met à disposition. Donc, un planning, un emploi du temps, ce sera communiqué, bien sûr, aux élèves du lycée et aux élèves du collège, avec des professeurs qui vont être sur place de manière régulière et qui vont accompagner nos élèves.
Les élèves y seront accueillis du lundi au vendredi de 8h à 12h30. Pour ceux pouvant se rendre directement au lycée du Mont-d'Or, les cours seront assurés de 7h10 à 16h30. Le collège de Boulary, quant à lui, a rouvert ses portes aux horaires habituels. Et si jusqu'à présent la continuité pédagogique était assurée sous format numérique et papier, à compter du 26 août, l'équipe du collège mettra en place un dispositif en présentiel des enseignants pour les élèves. Afin de faciliter les trajets entre le domicile et les établissements scolaires, l'Agence calédonienne de l'énergie travaille sur la mise en place de navettes maritimes réservées aux élèves et au personnel. Les précisions d'Isabelle Champmoreau.
On évalue que, par exemple, pour les élèves, nous avons à peu près 200 élèves qui sont concernés, qui résident dans la partie notamment Mont d'Or Sud. Et nous avons à peu près une centaine de personnels qui sont concernés sur nos établissements scolaires de la zone. Donc ce qu'on va mettre en place, évidemment, ça ne pourra pas répondre à l'ensemble des besoins. Mais ça permettra, nous l'espérons, quotidiennement à un certain nombre d'élèves et de personnels de pouvoir faire l'aller-retour dans les meilleures conditions et donc limiter les absences et le décrochage scolaire pour nos élèves de collège et de lycée.
Isabelle Champmoreau, la vice-présidente du gouvernement, notamment en charge de l'enseignement. Notez que l'internat du lycée du Mont-d'Or ouvrira ses portes dès mardi prochain, ce sera le 20 août.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 80% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils approuvent la réouverture à la rentrée du 19 août du collège de Tuban et sont 20% à dire qu'ils ne l'approuvent pas. Nous vous mettons en garde contre la circulation de faux articles utilisés pour un hameçonnage d'un site de trading en ligne. Ces faux articles circulent notamment sur Facebook pour inciter à ouvrir des comptes. Ils publient de fausses interviews de personnalités qui auraient prétendument été réalisées par Elisabeth Noir. Elisabeth Noir qui a déposé plainte ce matin pour usurpation d'identité. Nous tenions à vous mettre en garde contre ces fausses publications. Les petits marins du centre nautique de Calédonie ont profité d'un stage pendant ces vacances scolaires, de l'initiation pour certains, du perfectionnement pour d'autres. Les enfants sont très contents de retrouver la vie marine après un long temps de pause à cause des émeutes.
On a eu un gros temps d'arrêt pendant toutes les émeutes. On n'a pas navigué, donc on a repris il y a un mois, un peu moins. Bah, ça fait du bien de naviguer un peu. Le vent n'est pas toujours là, mais des fois, il est bien.
Ça sert à décompresser et à penser à autre chose que les cours.
Moi, j'ai bien aimé le stage. J'ai trouvé ça un peu facile. Il y avait des choses que je ne savais pas trop faire puisque je commençais. Mais il y avait pas mal de choses où je ne comprenais pas à cause du langage, par exemple border ou lâcher.
Les stages de vacances, ça me permet de pouvoir aussi retrouver mes amis pendant les vacances, de pouvoir faire plus de voiles, de pouvoir plus m'entraîner et ça me permet aussi de rencontrer des nouveaux qui eux aussi apprennent, ça me permet d'apprendre aussi aux gens.
Le vent n'a pas toujours été clément cette semaine, mais l'équipe a mis en place tous les dispositifs nécessaires pour garantir le bon déroulement de ce stage, explique Lorraine, la monitrice de voile.
Allez, il y en a un qui monte dans le bateau, on met la dérive, on baisse le gouvernail.
Les conditions n'ont pas été clémentes pour les débutants pour commencer. Le premier jour, il y avait beaucoup de vent, donc c'est un petit peu compliqué, mais on s'adapte. On peut réduire la voile, donc ça met moins de puissance. Et puis après, on a mélangé, en fait, on n'a pas mis les débutants tous les deux ensemble sur le même bateau, parce que donc, c'est des dériveurs doubles. On les a mis avec des régatiers, donc des personnes de confiance pour qu'ils soient tranquilles. Et après, petit à petit, on va remettre un peu de voilure, on s'adapte. Mais c'est sûr que c'est mieux de commencer quand il y a un petit peu de vent, et qu'après, le vent monte quand on a pris un peu plus de confiance, qu'on comprend mieux à manier le bateau.
Des propos recueillis par Sarah Mégerie. Pour des informations complémentaires sur le CNC, vous pouvez contacter le 26 27 27, le 26 27 27. Il est 18h09, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en métropole, dans le monde et dans la région. On se retrouve après une page de pub.
spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Avec l'actualité en métropole et cet accident rarissime survenu en Meurthe-et-Moselle, deux avions Rafale sont entrés en collision. Deux pilotes, un instructeur et son élève sont décédés. Le militaire aux commandes de l'autre appareil a pu s'éjecter avant l'accident, avant d'atterrir en parachute. Il est sain et sauf. Mélina Fachin, pour Europe 1, a pu s'entretenir avec un témoin de l'accident.
Il est environ midi et demi hier lorsque les deux Rafales entrent en collision. Dans la commune toute proche d'Autreville, Christian, retraité de l'armée de l'air, se trouve alors dans son verger.
Le ciel était noir. J'ai entendu les deux avions. Subitement, j'ai entendu un fort bruit de collision et tout de suite après, une explosion. Et là, j'ai vu une énorme boule de feu qui est descendue et puis une immense fumée qui est montée en l'air et tout. Voir deux Rafales qui se rencontrent comme ça, c'est quand même incroyable. C'est triste, quoi.
Le pilote d'un des deux appareils arrive à s'éjecter. Il est blessé, mais sain et sauf. En revanche, les deux pilotes de l'autre avion décèdent dans l'accident. Hier, 200 gendarmes et une cinquantaine de pompiers, ainsi que des hélicoptères, étaient partis à leur recherche durant de longues heures. Les deux Rafales de la base aérienne de Saint-Dizier, dans les Vosges, revenaient d'une mission d'entraînement, de ravitaillement en Allemagne. On ne sait pas encore ce qui a causé cet accident. Deux enquêtes distinctes ont été ouverte. Autre ville, Mélina Fachin, Europe 1.
Et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est encore attendu à la base aérienne 113 de Saint-Dizier où étaient affectées les victimes. Le président Emmanuel Macron s'apprête à commémorer le débarquement de Provence en ce 15 août. Cette opération fait partie d'un tout. Au départ, elle devait se dérouler en même temps que le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Mais elle a été décalée de plus de 2 mois car les Alliés n'avaient pas assez de navires et de troupes sur le moment. Un adolescent de 16 ans tué dans les rues de Béziers dans l'Hérault. Il a été gravement atteint par arme blanche à la carotide à l'issue d'une altercation. Deux hommes de 19 et 39 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Une enquête est en cours. L'actualité dans le monde, le défenseur de baleines Paul Watson devant la justice danoise. Le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, 73 ans, est menacé d'extradition vers le Japon. La justice danoise va donc trancher sur son maintien ou non en détention pour les 4 prochaines semaines. Le temps de statuer sur son éventuelle extradition. Le Japon l'accuse d'avoir endommagé l'un de ses baleiniers et d'avoir blessé son personnel. Il risque 15 ans d'emprisonnement s'il est extradé. Portrait de cet inlassable défenseur des cétacés avec Maxime Gondelot pour Europe 1.
En 45 ans d'action, Paul Watson a dédié sa vie à la protection des océans et des baleines. Le fondateur de Greenpeace et de Sea Shepherd aurait coulé plus de 10 navires de pêche commerciaux. Environ 5000 baleines seraient vivantes aujourd'hui grâce à son action. Lamia Essemlali est présidente de Sea Shepherd France.
Paul Watson est la figure de proue d'un mouvement de résistance face à la destruction de la planète, de l'océan et des baleines en particulier. Il montre par l'exemple que des choses qu'on pense être impossibles sont en réalité possibles. Pour moi, c'est effectivement un mentor, une source d'inspiration et un ami.
Mais Paul Watson utilise des méthodes controversées que certains qualifient de brutales ou dangereuses. C'est la raison de son départ de Greenpeace et de la création de Sea Shepherd en 1977. Paul Watson s'est donné une mission, éradiquer la chasse à la baleine de son vivant et partout, en Sibérie, en Islande, en Norvège ou encore au Japon, et par n'importe quel moyen, une vocation qui remonte à son plus jeune âge. À 15 ans, en plein conflit avec son père, il s'engage comme garde-côte. Il ne quittera plus jamais les océans.
Maxime Gondelot pour Europe 1. Paul Watson, on le rappelle, risque donc jusqu'à 15 ans d'emprisonnement s'il est extradé au Japon. Et puis l'actualité dans la région, en Nouvelle-Zélande, plusieurs personnes ont été indisposées après avoir consommé des bonbons qui étaient en fait de la méthamphétamine. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Un porte-parole du service néo-zélandais de lutte contre la drogue a indiqué que, plutôt que d'être fourré à la méthamphétamine, ces bonbons étaient en fait, je cite, des blocs de méthamphétamine d'environ 3 grammes chacun. Ces confiseries d'un genre particulier faisaient partie des colis alimentaires qu'environ 400 nécessiteux reçoivent tous les jours de l'agence caritative Auckland City Mission. Celle-ci a indiqué dans un communiqué que les friandises en question lui avaient été offertes anonymement par un membre du public. Plusieurs personnes qui avaient commencé à sucer les bonbons en question avant de les cracher en raison de leur mauvais goût ont été légèrement indisposées. La police d'Auckland a indiqué qu'une vingtaine de ces confiseries ont jusqu'à présent été saisies et qu'une enquête est en cours afin de retrouver leurs donateurs et d'établir surtout leur provenance. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h16, une dernière pause dans ce journal avant de développer l'actualité sportive en France, dans le monde et puis en Nouvelle-Calédonie. À tout de suite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, et c'est du sport, Isabelle Pelletier.
Et on ouvre cette page sport avec du football, des débuts de rêve pour Kylian Mbappé au Real Madrid, Léo Fichou.
Premier match, premier but et premier trophée cette nuit pour le Français. Le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, a remporté cette nuit la Super Coupe d'Europe. Une victoire 2-0 sur les Italiens de l'Atalanta Bergame, vainqueur eux de la Ligue Europa. Après avoir ouvert le score, Federico Valverde pour le Real Madrid, c'est Kylian Mbappé qui a inscrit le second but de madrilène et qui a donc scellé le sort du match. Le Français ne pouvait pas imaginer meilleur début avec son nouveau club.
Du cyclisme en métropole avec la 5e étape du Tour de France Femmes.
152,5 km entre la Belgique et la France. Départ de Bastogne, arrivée à Amnéville. Étape avec quelques difficultés, notamment dans le final. Au total, plus de 2100 mètres de dénivelé positif. Le départ sera donné à 21h05, heure de Nouméa. Au classement général, après 4 étapes, c'est la Hollandaise Demi Vollering qui est en tête avec 22 secondes d'avance sur sa compatriote Puck Peters. La première française, Juliette Labou, est cinquième à 56 secondes de la leader.
Du tennis aux États-Unis, les Français ne sont pas en réussite au Masters 1000 de Cincinnati.
Chez les femmes, la seule Française en lice au deuxième tour, Varvara Gracheva, s'est inclinée contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Une défaite en 3-7, 0-6, 7-6, 2-6. Dans le tableau masculin, il ne reste qu'Arthur Fils et Gaël Monfils au deuxième tour. Arthur Fils affronte l'Américain Brandon Nakashima. Gaël Monfils est lui opposé au numéro 2 mondial Carlos Alcaraz.
Et on va parler golf maintenant avec le challenge des jeunes cagous, un tournoi qui a démarré mardi avec les qualifications et qui continue aujourd'hui et demain avec les phases finales, Léo.
Oui, le golf de Tina organise cette compétition avec des jeunes golfeurs qui ont entre 6 et 21 ans. Après les deux premières journées de qualification hier et avant-hier pour les jeunes joueurs débutants et confirmés, les meilleurs de chaque catégorie participent aujourd'hui au 8e et au quart de finale. Chez les débutants, c'est Louis Cuny qui a terminé en tête des qualifications. Jules Guépy a lui remporté les qualifs des joueurs confirmés. Les détails du tournoi avec Jean-Benoît Peudetour, président de la Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie.
Les deux premiers jours sont plutôt bien passés. Il y avait une quarantaine d'inscrits, deux formats, le format 18 trous pour les plus aguerris et le format 9 trous pour les débutants. Ensuite, on a eu 16 qualifiés qui aujourd'hui se rencontrent donc sur un système de match play. Donc là, c'est du 1 contre 1, c'est un match par élimination directe, sur un format un petit peu particulier parce qu'on est sur du 9 trous, donc il faut être tout de suite dans le coup. Il y a un petit peu de vent, donc des conditions qui ne sont pas faciles pour les joueurs. Ça joue pour certains pas très bien, puis pour d'autres un peu mieux. Donc là, aujourd'hui, pour le moment, chaque joueur est à sa place. Voilà.
Les demi-finales auront lieu demain matin. La finale du challenge des jeunes cagous au golfe de Tina aura lieu dans l'après-midi.
Et puis des nageurs calédoniens seront au rendez-vous la semaine prochaine du championnat Open de Nouvelle-Zélande.
Et depuis lundi, les 9 jeunes nageurs, 7 de Dumbéa et 2 du Cercle des nageurs calédoniens participent à un stage organisé par la Ligue avec au programme pas moins de 16 séances. Le grand départ pour la Nouvelle-Zélande, c'est aujourd'hui et la compétition commencera mardi pour Loan Kayuela et Inès Kefel, tous deux nageurs au CNC. Les détails de leur entraîneur Thibaut Marie.
Alors Loan, il a un programme assez chargé, 50, 100, 200, 400 crawls, 50, 100, 200 papes et 204 nages, si je dis pas de bêtises. Après, on va voir peut-être pour ajuster parce que ça fait un programme lourd quand même en une semaine. Et Inès, 50, 100 crawls et 50, 100, 200 brasses. On est plus sur des objectifs quand même chronométriques que d'aller chercher des médailles, etc. Parce que c'est de l'open, donc eux, ils sont encore jeunes. Ça va être compliqué d'aller se hisser en finale, sachant que nous, on est des étrangers. C'est 2 étrangers par finale. Il y a l'équipe jeune australienne qui seront là-bas. Donc ça va faire du beau monde, ça va être intéressant à voir et espérer aller chercher quelques finales si c'est possible.
Pour Thibaut Marie, cette compétition est avant tout une prise d'expérience pour les jeunes nageurs avant les mini-jeux du Pacifique qui auront lieu l'an prochain et à terme les Jeux du Pacifique prévus à Tahiti en 2027.
Merci Léo, 18h20, c'est presque la fin de ce journal. On va maintenant passer à la météo.
Le Point Météo avec Codima Autodistribution Nouvelle-Calédonie, votre spécialiste auto sur Ducos et Connay. Retrouvez tous les accessoires auto, pièces détachées et produits d'entretien pour prendre soin de votre moto, auto ou bateau. Demandez conseil à votre Cody Team de choc.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, de faibles averses seront possibles sur l'est, la pointe sud, Marais et l'île des Pins. Ailleurs, le ciel sera bien dégagé. Le vent de secteur est faiblira. Il soufflera entre 15 et 20 nœuds sur la pointe nord, l'île des Pins et Marais. Et entre 10 et 15 nœuds sur le nord-est, Lifou et Ouvert. Les températures minimales seront bien supérieures au normal avec 19 à 22 degrés. Localement, 17 à 18 degrés sur l'ouest et Marais. Demain matin, grand soleil sur la pointe nord. Sur le sud de la côte est, Marais, Lifou et l'île des Pins, le ciel restera nuageux avec de rares ondées. Sur le nord-est et la pointe nord, alternance entre nuages et belles éclaircies. Sur la côte ouest, des brises s'établiront entre 5 et 10 nœuds. Sur l'est, le vent de secteur est restera proche de 10 nœuds. Ailleurs, il soufflera autour de 15 nœuds, voire 15 à 20 nœuds à l'île des Pins et sur la pointe nord, Isabelle.